La laideur d'un enfant désarçonne beaucoup plus que celle d'un vieillard. Même ceux qui n'ont pas vécu se doutent que cette aventure réserve d'horribles surprises et qu'on en sort altéré. Que dire de celui qui n'a pas eu besoin de traumatisme pour être atroce? On ne peut pas le qualifier de défiguré, il est né comme cela. Dans le cas d'Elephant Man, on explique la monstruosité par un drame survenu lors de la grossesse. Enid n'avait pas connu de choc particulier quand elle était enceinte. La sale gueule de Déoda décourageait toute tentative de compréhension. On eut beau retarder au maximum sa scolarisation, il fallut se résoudre à l'envoyer au CP à l'âge de 6 ans. Les parents eurent tellement peur des persécutions qui l'attendaient qu'ils préférèrent ne pas l'en avertir. Ils misèrent sur l'intelligence de leur fils, qu'ils savaient très supérieur à la leur. Ils furent bien inspirés. Le premier jour d'école eut de quoi le dégoûter du genre humain. Déoda n'avait jamais fréquenté d'enfants de son âge. Il s'était vaguement attendu à rencontrer ses alter ego, des êtres qui l'auraient compris, des frères. Il découvrit une bande de brutes, d'une méchanceté et d'une bêtise atterrante. Non seulement aucun élève ne lui adressa la parole, mais tous parlèrent de lui en sa présence. « Tu as vu celui-là? Il est trop moche. Moi, je ne m'assieds pas à côté de lui. » Quand l'instituteur fit la liste des présences, on apprit son prénom. « Déodorant !» cria un gosse. La classe éclata de rire. On ne l'appela dès lors que Déodorant. L'instituteur essaya d'y mettre bon ordre, sans conviction, hélas. Lui-même semblait s'empêcher de rigoler. En plus, la majorité des mômes se connaissaient depuis l'école maternelle. Un esprit de corps et une hiérarchie sévissaient déjà. Ce ne fut pas pour favoriser l'accueil du nouveau. Après les présentations, il y eut une première récréation. Déoda, qui n'avait plus d'espoir du côté des garçons, tenta d'approcher le groupe des filles. Elles s'enfuirent en poussant des hurlements de terreur. Il en entendit une qui criait « Celui-là, s'il me touche, je vomis !» L'intrus passa le reste de la demi-heure à observer les activités des enfants et à se rendre compte qu'il souffrait. Il savait la cause de son supplice, lui aussi. Quand il se voyait dans le miroir, il avait envie de se fuir. « Moi, je peux facilement ne pas me regarder. Eux, ils sont obligés, comprit-il. » Il parvint à ajourner son mépris. « La première fois que je me suis vue, j'ai réagi comme eux. Ils vont peut-être s'habituer. » De retour en classe, il subit l'ostracisme avec une indifférence moins feinte qu'au début. L'instituteur remarqua son courage et l'admira. À la fin de la journée, Enid vint le chercher. Il se jeta dans ses bras et la serra si fort qu'elle soupçonna le désastre. Elle n'osa pas le questionner. Tandis qu'ils rentraient chez eux main dans la main, l'enfant demanda « Qu'est-ce que c'est, déodorant ?»« Quelqu'un t'a dit que tu sentais mauvais ?» s'insurgea la mère. « Non, répondit-il avec inquiétude. C'est un mot que j'ai entendu. Je t'expliquerai à la maison. » Dont acte, il contempla le stick, enleva le bouchon, respira la roulette. Cela sentait la vanille. Il lut ce qui était inscrit dessus. « Je ne comprends pas à quoi ça sert. » Enid mima le geste et expliqua l'utilité de l'objet. « Mais tu es trop jeune pour en avoir besoin, » continua-t-elle. Déoda enregistra ses données et décida que ce surnom n'était ni positif ni négatif. Il s'en accommoderait. Il n'était pas dupe des intentions malveillantes des autres, mais il feindrait de ne pas les remarquer. Le lendemain, l'instituteur s'aperçut que l'enfant lisait à la perfection. « Qui t'a appris ? Personne ?»« Et écrire ?»« Je n'écris pas comme vous. »« Montre ?» Déoda traça les lettres en caractère d'imprimerie. Il les reproduisait tels qu'il avait pu les lire et s'étonnait de l'écriture cursive de l'adulte, preuve que le gosse avait appris seul. « Je t'enseignerai l'écriture cursive, d'accord ? C'est plus beau. Et comme ça, tu verras moins la cruauté des mômes. » pensa-t-il. Les enfants comprirent que la monstruosité de leurs condisciples n'était pas uniquement physique. Déoda ne la mit pas en avant. Il n'eut aucune des attitudes que l'on prête aujourd'hui aux enfants surdoués. Il était trop intelligent pour penser qu'il ne lui restait rien à apprendre. Même quand il savait, il s'intéressait à la manière dont l'instituteur expliquait. Et lorsqu'il n'écoutait pas, Il observait les élèves à la dérobée. Un instinct le poussait à la camaraderie. Ceux qui le huaient en groupe, pris isolément, ne semblaient pas disposés à le détester. La récréation n'était pas le moment le plus opportun pour s'approcher d'eux, qui cessaient alors d'être des individus pour devenir une cohorte. L'idéal consistait à échanger quelques paroles banales pendant la pause. L'enfant répondait au pestiféré sans craindre de lui être associé. Peu à peu, l'exclu eut établi ce genre de contact anodin avec chaque élève. 2 mois plus tard, il jouait avec les autres dans la cour, sans que le groupe ait remarqué son stratagème. L'agressivité à son égard n'avait pas disparu pour autant. Un jour que l'instituteur le félicitait pour ses performances en calcul, un petit pervers répéta haut et fort un slogan publicitaire. « Déodorant hyper performant, 24 heures sans transpirer !» La cible eut l'habileté d'éclater de rire avec la classe entière. Moyennant quoi, la moquerie disparut très vite. Le sobriquet ne tarda pas à être écourté en Déo, qui pouvait passer pour le diminutif de son prénom véritable. Autre facteur d'exclusion, Déoda était le seul de l'école à ne pas avoir chez lui de téléviseur. Il interrogea ses parents à ce sujet, qui se montrèrent inflexibles. À les entendre, la télévision était l'invention du diable. Leur fils, qui voulait s'en rendre compte par lui-même, manœuvra en stratège. Il examina chaque élève comme un général passé trop en revue et décida de s'adresser à Axel. « Si je te fais ton devoir de calcul, je peux venir regarder la télé chez toi mercredi après-midi ?» Plutôt content d'échapper à la perspective d'une mauvaise note, Axel accepta. Déoda annonça à sa mère qu'il était invité chez un copain le mercredi suivant. Enid s'en émerveilla. « Tu as un copain ?» Elle se rendit compte aussitôt de ce que son enthousiasme avait d'insultant et affecta de ne pas s'émouvoir d'un phénomène aussi normal. Au jour dit, la maman d'Axel réprima un haut-le-cœur en rencontrant le fort Anthème et mit sa sale gueule sur le compte de la bosse des maths. Le devoir de calcul expédié, les deux enfants s'installèrent devant un somptueux téléviseur et regardèrent les fameux programmes du mercredi après-midi. À sa honte, car il eût préféré réagir comme ses parents, Déoda adora. Il suffisait de se laisser emporter par ce tapis volant de lumière et de son. On était embarqué dans un monde peuplé de personnages fabuleux, dont les péripéties étaient racontées à une vitesse supersonique, avec des onomatopées étranges et des refrains au goût de bonbons. Au nom de quoi le privait-on de cet enchantement ? Axel n'était pas très malin. Il semblait tenir de sa mère, qui passa l'après-midi dans la pièce d'à côté, à marmonner au téléphone, ou plutôt à croire qu'elle marmonnait, car Déoda n'avait qu'à tendre l'oreille pour entendre. « Je te jure, un vrai petit monstre. Axel ne s'en aperçoit pas parce qu'il est un enfant. Tu crois que je dois prévenir mon mari ?» Manifestement, elle s'en abstint, car vers 18h, entra un homme qui s'exclama. « C'est quoi ce troll ?»« Bonsoir, monsieur. » répondit l'insulté avec une politesse appuyée. Une demi-heure plus tard, Enid vint rechercher son fils. Rien qu'à la manière dont les parents d'Axel la dévisagèrent, elle sut que le physique de son enfant avait fait grande impression. « Non, ce n'est pas génétique », fut-elle tentée de leur dire. « Tu as aimé ton après-midi, mon chéri ?» demanda-t-elle en chemin. « Oui. Est-ce que je peux retourner chez Axel mercredi prochain ?» Elle y consentit. Ce devint un rituel hebdomadaire. L'énigme s'approfondit. Comment des gens qui possédaient un téléviseur aussi magique et qui passaient à le regarder le plus clair de leur temps pouvaient-ils demeurer bêtes et pire que bêtes, vulgaires et médiocres? Comment les prodigieux dessins animés ne leur élevaient-ils pas l'esprit? Déoda voulut en savoir davantage et demanda à Axel s'il pouvait dormir chez lui. « Pas de problème, » répondit le copain. Le mercredi suivant, Enid ne vint pas chercher son fils à 18h30 et l'enfant découvrit enfin le déroulement d'une soirée chez les autres. Ce fut fantasmagorique. On resta tout le temps devant la télévision. Vers 20h, la maman commanda une pizza qui ne tarda pas à être livrée et qu'elle servit sur des plateaux. Ainsi, on ne dut pas s'attabler et on n'interrompit pas la contemplation. Les programmes, en revanche, changèrent et devinrent moins bien. On vit de vraies personnes. Elles disaient des choses d'un intérêt contestable. Elles avaient un parler très laid qui semblait impressionner la famille d'Axel. Parfois, la maman demandait si quelqu'un voulait une nouvelle part de pizza. Le père tendait son assiette tout en intimant le silence de l'autre main. Déoda essaya de se concentrer sur ce qui était dit. À peine commençait-il à comprendre le sujet abordé que celui-ci changeait. L'unique point commun entre chaque thème était un genre d'ennui sinistre. Des publicités plutôt amusantes interrompirent ce pinsom. Mais après, ce fut pire. Il y eut une dispute entre plusieurs individus qui parlaient chacun au nom de la France comme si elle leur appartenait. Il avait dû se passer quelque chose de grave dans un épisode précédent. « Ça t'intéresse ?» chuchota Déoda à l'oreille d'Axel. En guise de réponse, celui-ci haussa les épaules d'un air vaseux. « On va se coucher ?» suggéra l'invité. Le père les fit taire d'un geste. Les deux enfants filèrent dans la chambre d'Axel. « Vous regardez la télévision tous les soirs ?» demanda Déoda. « Mes parents aiment être informés. Mais toi, ça t'embête, non ?»« Oh, tu sais, » répondit-il avant de poser sa tête sur l'oreiller et de s'endormir. Cette attitude le plongea dans une perplexité profonde. Comment le copain pouvait-il supporter de s'ennuyer à ce point ? Il ne semblait pas obligé de rester là. Il avait eu le droit de s'en aller sans demander la permission. Alors pourquoi subissait-il cette émission ? La chambre d'Axel regorgeait de jouets. Depuis le temps que Déoda venait chez lui, chaque mercredi, jamais il n'avait joué avec aucune de ses merveilles. S'il n'avait pas eu peur de réveiller le copain, il aurait ouvert ses boîtes bien rangées. Il aurait touché ses objets de désir, Lego, voiture Batman, soldat Duplo. Il osa penser qu'Axel n'était peut-être pas très malin. Et il n'exclut pas que l'omniprésence de la télévision ait joué un rôle dans cette affaire. Non que les programmes soient forcément en cause. C'était comme si l'appareil lui-même avait capturé la volonté d'Axel. Le lendemain, il éprouva du soulagement à aller à l'école, qu'il n'aimait guère pourtant. Il eut l'impression de rejoindre un monde préservé du néant. Il entendit à la cantine Axel dire des horreurs sur lui. « Il mange salement, il ne se déshabille pas pour dormir. » Et va lui demander la cause de cette trahison. « Oh, tu sais, » répondit l'ex-copain avec un haussement d'épaule, « c'est pour dire quelque chose. » « Je ne viendrai plus chez toi le mercredi. Pourquoi ?» Déoda sut que le problème d'Axel dépassait de beaucoup la bêtise. Il devait y avoir un rapport avec la télévision sans qu'il puisse en voir la nature. Il ressentit un peu de peine à l'idée de ne plus voir les fabuleux dessins animés. Ses parents s'inquiétèrent de la fin de ce qu'ils avaient pris pour une amitié. « C'est si grave ce qu'il t'a fait ?»« Non. Alors pardonne-lui. Je lui pardonne. Ce n'est plus comme avant, c'est tout. » La notion d'amitié n'avait pas encore effleuré l'enfant. Il n'en éprouvait pas un besoin particulier. En cela, il se conduisait noblement. L'amitié n'apparaît pas pour combler un appétit. Elle surgit quand on rencontre l'être qui rend possible cette relation sublime. Déoda voyait qu'à l'école, certains élèves étaient amis. Il interprétait cela comme un pacte, une loyauté. Cela lui inspirait du respect, sans plus. Par ailleurs, même s'il n'en avait guère souffert, il avait su le prestige qu'Axel avait tiré de ses médisances à son sujet. De voir que tant d'enfants s'étaient pourléchés d'une telle bassesse ne lui donnait pas envie de se rapprocher de l'un d'entre eux. Un jour qu'il jouait dans la cour à la balle aux prisonniers, il reçut sur la tête une fiente d'oiseau. Il ne comprit pas tout de suite ce qui s'était passé. Les hurlements de rire des autres le renseignèrent. Il courut aux toilettes se regarder dans le miroir. Il vit qu'une substance blanchâtre recouvrait ses cheveux. Il n'osa pas y mettre les doigts. À sa stupéfaction, une joie immense s'empara de lui. Tandis qu'il rinçait sa chevelure sous le robinet, il essaya d'analyser son excitation. « Nous étions une centaine, et c'est tombé sur moi. L'oiseau m'a choisi. » D'instinct, il sut qu'il fallait garder pour lui cette interprétation. Si la classe savait que cette malchance lui apparaissait comme une élection, son compte était bon. Il avait conscience qu'il ne risquait pas de convaincre qui que ce soit de son explication. Pour autant, il n'en doutait pas. Si Déoda avait été un apprenti messie, il aurait traduit ce signe en termes de symbole divin. Mais il avait cette tendance rare à voir les choses pour ce qu'elles étaient et à les trouver formidables pour cela. Il vécut cet épisode comme une illumination. Un monde nouveau s'ouvrait à lui. Celui des oiseaux. Il regretta de ne pas avoir eu le réflexe de regarder le fuyanteur. Il ne savait même pas s'il s'agissait d'un pigeon, d'un moineau ou d'une autre espèce. Lui, que les humains commençaient à décourager, se réjouissait de recevoir une invitation si claire à lever les yeux vers les véritables habitants du ciel. Pourquoi inventer la figure de l'ange alors que l'oiseau existe? La beauté, la grâce, le chant sublime, le vol, les ailes, le mystère. Cette jante avait toutes les caractéristiques du messager sacré, avec cette vertu supplémentaire qu'il n'était pas nécessaire de l'imaginer. Il suffisait de la regarder. Mais regarder n'était pas le fort de l'espèce humaine. « Ce sera le mien, c'est déjà le mien », décida Déodat. Contempler cette stupéfiante catégorie du réel qui vivait quelques mètres au-dessus de nous. Il ne s'agissait pas d'observer l'inobservable, même sans jumelles. L'oiseau s'offrait à la vue. Sans grand rapport avec notre race, et pourtant sans lui être exagérément étrangère, l'espèce aviaire accomplissait ce prodige d'une civilisation parallèle, d'une coexistence pacifique. De retour dans la cour, l'enfant scruta les branches des marronniers. Il vit les passagers ailés de Paris, Piaf, Pigeon et d'autres dont les noms lui étaient encore inconnus. Il se jura d'apprendre à identifier chacun. « Déo, tu joues ?» cria un môme. Il rejoignit la partie de balle aux prisonniers, où il marqua contre son camp plusieurs fois d'affilée. On finit par l'exclure. Incapable de penser à autre chose qu'à sa conversion, il attendit la sortie avec une impatience douloureuse. Dès que retentit la sonnerie libératrice, il courut jusqu'à la rue où sa mère, fidèle au poste, lui ouvrit les bras. « Avons-nous à la maison un livre sur les oiseaux ?»« Non. » Le visage de l'enfant se décomposa. Enid eut heureusement le bon réflexe. « Dans le dictionnaire, tu verras sûrement des oiseaux. » La planche oiseau de l'antique Larousse illustré emplit les yeux de Déodat de sa richesse. Il resta couché sur le ventre pendant des heures à la contempler, en proie à un émerveillement absolu. Le dictionnaire avait réuni en une page toutes les familles aviaires. Passereaux, rapaces, échassiers, palmipèdes se chevauchaient en un foisonnement que la nature n'aurait pas permis. C'était une œuvre d'art, une profusion de couleurs et de grâces. Le petit garçon eut l'instinct scientifique de regarder aussi les autres planches du Larousse. Il s'offrit les félins, les poissons, les dinosaures, les serpents. Aucun doute. Seule la planche des oiseaux lui produisait cet effet. Il y avait pourtant au moins autant de couleurs sur la planche des poissons, mais il ne ressentit aucune attirance pour ces espèces aux faces perplexes ou contrariées. L'illustrateur du dictionnaire avait donné aux oiseaux des expressions énigmatiques, mais intraduisibles en termes d'humeurs humaines. Les poissons tiraient la gueule, les oiseaux conservaient leur mystère. Il regarda aussi aux entrées des espèces répertoriées sur la planche. Joie. Dans sa générosité, le Larousse montrait à l'entrée Merle, un spécimen mâle, et son épouse la Merlette. À l'entrée, Mésange, la Mésange bleue. Ses pages regorgeaient d'oiseaux. Il fallait les feuilleter toutes, sans exception. On ne savait jamais sur quelle espèce secrète on allait tomber entre deux feuillets, comme un promeneur découvre un envol entre deux taillis.